De retrouver Anne Verdaguer pour le Journal des Amériques et d'Haïti. Bonjour Anne.
Bonjour Joanne, bonjour à tous. À la une aujourd'hui, Haïti placé en alerte vigilance orange à l'approche de la tempête tropicale Isaias. Cette année, la saison cyclonique se couple avec l'épidémie de coronavirus. Une difficulté supplémentaire pour le pays. On va vous parler également du Guatemala où des dizaines de patients morts du Covid-19 ont dû être enterrés sans avoir pu être identifiés. Et puis au Pérou, le pillage des sites archéologiques dont les fouilles sont à l'arrêt en raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement sur place. Haïti a donc été placé en alerte vigilance orange à l'approche de la tempête tropicale Isaias et se prépare à protéger ses habitants des fortes pluies et des rafales de vent attendues ce jeudi. Les équipes de la protection civile haïtienne travaillent pour préparer l'éventuelle évacuation des personnes en difficulté, mais à cause de l'épidémie de coronavirus, davantage de précautions doivent être prises pour ne pas propager le virus. À Port-au-Prince, notre correspondante Amélie Baron.
La moitié nord d'Haïti devrait faire face ce jeudi à de fortes pluies et des rafales de vent, des perturbations qui pourraient s'étendre à l'ensemble du pays, car la trajectoire de cette tempête n'est pas établie de façon définitive. Cette année, la saison cyclonique se couple avec l'épidémie de nouveau coronavirus, une difficulté additionnelle, comme l'explique Jerry Chandler, directeur de la protection civile haïtienne.
Nous avons un certain nombre d'abris, mais là maintenant, notre capacité est carrément justement diminuée du fait de la COVID. Un abri qui devrait recevoir 100 personnes peut maintenant en recevoir 50-60. Donc là, maintenant, il faudra faire très attention, premièrement. Deuxièmement, la stratégie est surtout d'éviter que l'abri devienne une source de propagation pour la COVID. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de mettre le paquet et de vraiment mettre l'accent sur le fait d'avoir des intrants qui puissent nous aider à protéger la population. Je parle là du masque. Là, maintenant, nous sommes en train de travailler sur justement les points d'eau et pour pouvoir avoir un minimum, et comme je dis, de préparation au niveau de ces abris.
Les risques d'inondations et de glissements de terrain sont très importants compte tenu des fortes pluies qui se sont déjà abattues sur le pays. La semaine dernière, les personnes vivant dans les zones à risque, en bord de rivières et de ravines, sont appelées à temporairement se déplacer vers des lieux plus sûrs. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Nous sommes en ligne avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour Anne.
On vient de l'entendre, le pays se prépare donc à l'arrivée de la tempête Isaias. En quoi la crise du coronavirus affecte-t-elle les préparatifs en Haïti pour la saison cyclonique?
Alors d'abord, il faut dire que la saison cyclonique n'a pas retenu l'attention cette année, plusieurs raisons, mais aussi particulièrement à cause de la COVID, ce qui signifie que les esprits n'étaient pas préparés quand on a annoncé qu'il y avait une dépression tropicale qui arrivait. Et ce matin, quand on a appris que Isaias existe, que c'est une tempête tropicale, il faut dire que ce n'est que maintenant que tout le monde essaie, au niveau de la population, de se mettre à l'attention de ce phénomène météorologique qui nous arrive. Au niveau de la protection civile, les difficultés sont quasiment les mêmes. Cette fois, c'est un autre niveau. C'est d'abord parce que les centres, les abris où on peut mettre les gens, n'ont pas été calibrés pour mettre des gens pendant la COVID. C'est les mêmes abris qui existaient avant la pandémie qui sont encore disponibles. Et le directeur général de la protection civile explique qu'il faudra peut-être mettre moins de gens et prévoir des gestes barrières, des moyens barrières quasiment, pour empêcher que les abris ne deviennent des centres de propagation de la pandémie. Pour le moment, la population va encore un peu normalement à ses activités et on suit du coin de l'œil l'arrivée, la trajectoire de la tempête Isaias.
Autre sujet dans le Nouvelliste, Franz Duval, c'est la crise de l'électricité en Haïti. Le Premier ministre Joseph Jout tente de trouver une solution. Il cherche la lumière, titre le Nouvelliste.
Il cherche la lumière, il cherche partout. Le Nouvelliste dit qu'il cherche la lumière avec la Turquie, avec Taïwan, avec l'Inde, et en mettant en gage quasiment les ressources des administrations portuaires haïtiennes pour avoir des fonds pour financer ce qui paraît être le plan le plus ambitieux jamais imaginé en Haïti pour l'électricité. Dans des déclarations faites au Nouvelliste, le Premier ministre a annoncé qu'on va essayer d'installer dans les mois qui viennent 520 MW de capacité de production d'électricité en Haïti. 520 MW de capacité de production d'électricité, c'est le triple de tout ce qui a été fait depuis qu'Haïti existe quasiment. Depuis plus d'un siècle qu'Haïti connaît l'électricité, on n'a jamais installé autant de capacités. Le nouvel instrument en éditorial, est-ce une grosse promesse ou un trop gros rêve? On ne sait pas trop parce qu'il y a une question à laquelle le Premier ministre ne peut pas répondre clairement. Où va-t-on trouver le financement pour faire tout ça? Il faut dire que dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, pour le moment, certains quartiers, beaucoup de quartiers, ont plus d'un mois sans électricité. Mais sans électricité du tout.
France, concernant le tourisme, à présent, le Covid-19 a, on le sait, considérablement ralenti les activités économiques en Haïti et aussi les voyages, bien sûr. Mais malgré cette situation, Haïti se prépare à recevoir des touristes. Le gouvernement a mis en place un protocole sanitaire. En quoi consiste-t-il exactement?
Alors, ce protocole sanitaire, c'est pour les établissements qui vont recevoir des clients, les établissements hôteliers, les restaurants, ceux qui font le transport des touristes, tous ceux qui reçoivent des visiteurs, des institutions qui étaient plutôt fermées pendant les trois derniers mois que nous venons de vivre, ils sont en train de rouvrir. Mais ce sont des guides que ces établissements devront suivre strictement pour pouvoir accueillir de la population. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de touristes, il n'y a pas beaucoup de visiteurs, mais nous sommes en été, il y a une clientèle captive, c'est les parents, c'est les amis qui reviennent en Haïti. Ce n'est pas vraiment les touristes, mais les hôtels ont commencé à fonctionner. Le ministère du Tourisme espère une saison malgré tout en Haïti, et cette saison commence le 1er août, sauf que malheureusement, cela commence avec la tempête tropicale qui nous arrive. Encore une mauvaise nouvelle.
Mais oui, merci beaucoup, Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste en Haïti. Bonne journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
Et la revue de presse des Amériques à présent avec vous, Arim Lipold, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On prend tout de suite la direction de Portland aux États-Unis. Les agents fédéraux qui ont été déployés par le président Donald Trump vont se retirer progressivement à partir d'aujourd'hui.
Oui, pour mémoire, Portland, dans l'état d'Oregon, c'est l'un des épicentres du mouvement de contestation contre le racisme et les violences policières depuis la mort de George Floyd. Le déploiement de troupes fédérales a ravivé les tensions dans cette ville plutôt réputée libérale. Hier, les autorités locales et le gouvernement ont donc trouvé un accord pour un retrait progressif des agents.
Et c'est la gouverneure de l'état, Kate Brown, qui l'a annoncé dans un communiqué qualifiant les agents fédéraux de force d'occupation.
Oui, selon le journal local The Oregon, hier soir, donc avant le début de leur retrait, les agents ont encore une fois montré leur présence en grand nombre, comme tous les soirs. Depuis plus de deux mois, des manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer les violences policières, le racisme, et aussi pour demander la fin du déploiement des forces fédérales. Let's go home, agents fédéraux, rentrez chez vous, pouvait-on lire sur les pancartes. Et parmi les manifestants, Anne, le jeune Afro-Américain Andrew Miller, qui a été blessé à la tête par un tir de balle en caoutchouc, selon le journal The Oregonian, il s'est adressé à la foule et a plaidé pour la poursuite des manifestations, même après le départ des fédéraux. Je veux être sûr que le mouvement Black Lives Matter reste votre priorité absolue, a-t-il lancé aux manifestants.
Au Guatemala, Rim, des dizaines de patients morts du Covid-19 ont dû être enterrés sans avoir pu être identifiés.
D'après la Prensa Gráfica, plus de 60 personnes sont arrivées à l'hôpital dans un état qui n'aura pas permis effectivement de s'identifier. Suivant un strict protocole sanitaire, les hôpitaux ont été obligés d'enterrer les corps rapidement. Ils ont pris cependant le soin de les photographier et d'archiver les clichés. Selon la Prensa Gráfica, la première personne morte du Covid-19 qui n'a pas pu être identifiée, eh bien, c'était une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle est décédée en avril dernier et jusqu'à présent, aucune personne n'est venue réclamer les corps, le corps de ces 63 personnes exactement mortes anonymement.
Le coronavirus qui poursuit sa trajectoire mortelle au Brésil, plus de 90 000 morts au Brésil. C'est le pays où le Covid-19 tue le plus au monde après les États-Unis.
Oui, avec un phénomène aussi très inquiétant, une très haute mortalité chez les femmes enceintes. D'après Folha de São Paulo, plus de 200 d'entre elles sont mortes avant de pouvoir accoucher. Un tiers de ces femmes n'ont pas eu accès à une unité de soins intensifs et dans un cas particulier, les médecins ont pu sauver un bébé grâce à une césarienne. Déjà, en temps normal, le Brésil enregistre un taux de mortalité très très élevé chez les femmes enceintes, qui est toujours la marque d'un très mauvais système de santé publique, estime la Folha.
Le dernier rapport de l'ONG Global Witness, à présent plus de 200 militants écologistes ont été assassinés dans le monde l'année dernière, en Amérique centrale notamment, et en Colombie en particulier, la Colombie qui a concentré près de la moitié de ces meurtres. Victor Hugo Moreno, responsable d'une association d'Afro-Colombiens dans le nord du Cauca en Colombie.
Muchos de los defensores están contre la minerie illégale.
La plupart des défenseurs de l'environnement en Colombie se battent contre les mines illégales qui déversent du cyanure et du mercure dans les rivières et qui détruisent la faune. Ils sont assassinés car ce sont les seuls à s'opposer au développement de grands projets miniers ou d'industries pétrolières. Car il faut savoir que dans ces zones, il y a un mélange de nombreux acteurs. D'une part, il y a la corruption des autorités locales, d'autre part, la présence de groupes paramilitaires. En plus, de nombreux groupes armés illégaux prolifèrent. Des mafias qui souhaitent conserver le contrôle sur ces territoires pour y développer des cultures illicites comme la coca, la marijuana ou l'amapola. En fait, le développement économique prime sur les droits de l'homme et sur les droits de nos territoires. Malheureusement, le coronavirus n'a pas freiné les violences à l'égard des défenseurs de l'environnement en Colombie. Récemment, les groupes armés se sont renforcés et les assassinats, les menaces et les persécutions se sont multipliés.
Des propos recueillis par Elliot Braché. À Rimes, direction le Canada, à présent, le Premier ministre Justin Trudeau sera auditionné par le Parlement. Aujourd'hui, un témoignage très inhabituel et très attendu.
Oui, le journal Le Devoir parle même d'un événement historique. Justin Trudeau comparaîtra donc devant un comité de la Chambre des communes pour donner sa version des faits dans l'affaire Unis, une affaire qui englue son gouvernement depuis un mois, selon Le Devoir. Le journal québécois rappelle que c'est le premier témoignage d'un premier ministre canadien dans une affaire de ce genre depuis 1932. Justin Trudeau est accusé, vous savez, par l'opposition de conflits d'intérêts. Il avait mis en place un programme de bourse pour les étudiants qui ne trouveront peut-être pas d'emploi à cause de la crise du Covid-19. Et bien, seul hic, il s'est avéré après que l'organisme de charité choisi pour gérer ce programme a des liens étroits avec la famille du Premier ministre, mais aussi avec le ministre des Finances.
Merci beaucoup à Rim Lipold pour cette revue de presse des Amériques. On part au Pérou à présent, où la pandémie du coronavirus et les mesures de confinement qu'elle a entraînées ont mis un coup d'arrêt aux fouilles archéologiques dans le pays. Résultat, de nombreux sites sont aujourd'hui livrés aux pilleurs qui revendent les objets trouvés sur le marché noir. Un phénomène qui met en lumière l'abandon plus général du patrimoine culturel péruvien. Un dossier signé de notre correspondante à Lima, Violaine Munoz-Boileau.
Il faut moins d'une heure en voiture depuis le centre de la capitale pour atteindre la zone archéologique de Huaycan des Pariachi. 60 hectares de ruines précolombiennes situées au pied d'une colline et dominées par ce qui fut autrefois un palais majestueux. Restauré il y a tout juste 50 ans, ce site, mentionné dans la Bible andine, est l'un des plus importants de la culture précolombienne et renferme aujourd'hui encore de nombreux trésors. Mais comme beaucoup de sites archéologiques du Pérou, seule une petite partie est protégée par un mur. Le reste est ouvert à tout vent, ce qui le rend vulnérable aux intrusions et aux pillages. Guido Lombardi, médecin de formation, est un grand passionné d'archéologie et fervent défenseur du site de Huaycan. C'est donc avec une profonde tristesse qu'il constate les saccages commis pendant le confinement.
Là, vous voyez, pas besoin de marcher longtemps pour trouver des bouts d'os humains calcinés. Ça montre qu'il y a eu des pillages de tombes ici. Ils pillent par-ci, par-là, et ceux qui ne voient rien, comme les os, ils les jettent. Et si on ne voit ni tissu, ni métaux, ni céramique, ni crâne, c'est parce qu'ils ont été volés par les pilleurs qui les vendent ensuite sur Internet, sur eBay par exemple. C'est triste que des gens cherchent à se faire de l'argent sur le dos de nos ancêtres.
Au Pérou, beaucoup de gens vivent des pillages, selon Lombardi, et ce, alors même que leurs auteurs risquent de 3 à 8 ans de prison. Si le phénomène n'est pas nouveau, il semble toutefois s'être amplifié depuis le début de la pandémie au Pérou, comme l'a constaté Leslie Urteaga, vice-ministre du patrimoine culturel.
Avec le confinement, nous avons dû arrêter nos visites de contrôle et certains en ont profité. Depuis la mise à l'arrêt des fouilles en mars, nous avons reçu 80 alertes pour des pillages provenant de tout le pays. Cela concerne surtout des sites ouverts, à l'air libre, comme la nécropolis d'Ancon, qui recèle des milliers de momies, ou Acamalena, où on trouve beaucoup d'objets en fer.
Pour Guido Lombardi, le confinement est un désastre pour le patrimoine culturel du pays, car au-delà des pillages, ces sites, laissés sans surveillance, se retrouvent livrés à toutes sortes de pratiques.
Il y a des invasions de terrain. Dans certains cas, les gens construisent carrément des maisons au sein même de la zone archéologique. Il y a aussi des gens qui jettent leurs poubelles. C'est une honte, c'est triste et douloureux pour l'héritage culturel de notre pays.
Une situation que Leslie Urteaga déplore tout en évoquant les difficultés pour les autorités à protéger l'ensemble des sites archéologiques du pays.
Il existe plus de 27 000 sites au Pérou et nous n'avons pas de quoi mettre en place un vigile sur chaque site. Et il y en a qui sont si étendus qu'on ne pourra jamais les protéger entièrement. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les populations sur place et leur montrer que ça peut devenir un outil de développement pour l'économie locale.
Une stratégie qui a fait ses preuves au Machu Picchu, par exemple, comme l'explique le gérant de la cité Inca, José Bastante.
Les populations qui habitent au sein du parc sont régulièrement sensibilisées à la protection du patrimoine culturel et naturel. Donc elles ne vont pas affecter ce qu'elles considèrent comme étant leur patrimoine.
Depuis le début du confinement, le Machu Picchu, joyau du tourisme au Pérou, a tout de même bénéficié d'une vigilance renforcée pour protéger ses 37 000 hectares des éventuelles intrusions ou pilleurs. Pour les plus de 20 000 ruines et autres sites du pays, les archéologues comptent sur la reprise des fouilles prévues fin juillet pour endiguer le phénomène. Vielo Elminos Boileau, Lima, RFI.
Il est 8h25 à Lima, au Pérou.
L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal Outre-mer Première, présenté par Odane Agiali. Bonjour Odane.
Bonjour Anne.
À la une, les autorités sanitaires alertent sur une reprise active du coronavirus en Guadeloupe.
Oui, 35 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ces dernières 48 heures dans le département. Rebond des contaminations qui inquiètent les autorités. L'Agence régionale de santé et la préfecture de Guadeloupe, de nouveau en état d'alerte, Aurélie Treuil.
C'est une situation extrêmement préoccupante pour la préfecture et l'ARS de Guadeloupe. Ce matin, la nouvelle est tombée. 35 nouveaux cas confirmés en 48 heures seulement, ce qui porte à 244 cas le nombre de cas cumulés depuis le début de l'épidémie. Depuis l'apparition de 6 cas lundi, les autorités sanitaires ont mené des investigations sur l'île Sœur. Ces nouveaux cas proviennent pour partie du cluster identifié lundi dernier, mais pas seulement. Il y a des personnes qui revenaient de Saint-Martin, de Martinique, de Guyane et de France hexagonale. L'ARS rappelle à toutes celles et ceux qui seraient concernés de s'isoler afin de protéger les autres et de se faire dépister au plus vite en cas de doute dans un laboratoire où les tests se font sans prescription médicale. La plateforme Riposte continuera de joindre également les cas positifs et les cas contacts pour un suivi attentif. À Saint-Martin, ce rebond des contaminations conduit même les autorités à mettre en place une limitation des déplacements entre les parties hollandaises et françaises de Saint-Martin. Le gouvernement hollandais de Sint-Maarten a d'ailleurs annoncé à ce jour dénombrer 45 cas positifs de Covid-19.
Précision, Guadeloupe, la première, signée Aurélie Treuil. Et autre recrudescence en Martinique, cette fois celle des morsures de serpents. 23 cas recensés depuis janvier. C'est environ le nombre de morsures de serpents que l'on recense habituellement en une année entière. Et des chercheurs travaillent d'ailleurs depuis la Martinique sur le venin des serpents. Venin qui comporterait de nombreuses vertus. Il permettrait par exemple de fabriquer de nouveaux médicaments. Le docteur Medawi Hossein, chef de pôle réanimation à l'hôpital de Martinique, au micro de Bianca Careto.
Dans les venins qu'ils fabriquent, il y a probablement aussi les médicaments de demain. Dans la nature, comme ça, vous avez beaucoup d'animaux là, qui fabriquent des produits qui sont capables de soigner les gens. Et elles fabriquent aussi les défenses contre certains poisons, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'avec certains serpents, vous avez des animaux qui sont pas sensibles aux venins. Et en analysant ces animaux, il y a une variété d'opossums, là, qui est une espèce de manicou, comme notre manicou. Là. On s'est aperçu qu'ils avaient une mutation génétique là, qui les protégeait contre le venin de ces serpents.
Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain. Très belle journée.
Merci et à demain, Odane Agi. Ali, c'était le journal Outre-mer Première. C'est la fin de cette édition d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour notre part demain, 15h10, heure de Paris, 9h10, heure de Port-au-Prince. D'ici là, portez-vous bien, restez avec nous sur la Radio du Monde.
Vous souhaitez réécouter ce journal ? Rendez-vous sur Internet. www.rfi.fr.
C'est samedi sur RFI. Alors on dit quoi? Avec Jaranjay.
L'Afrique est le berceau d'un tiers des langues parlées dans le monde. Comment conserver les langues locales africaines et pérenniser leur existence? Face à la mondialisation, comment les jeunes s'approprient leur idiome? Et surtout, comment le digital peut-il jouer en faveur de la préservation des langues?
Alors on dit quoi? Présenté par Jaranjay.
Tous les samedis à 11h10 TU sur RFI. Cette semaine sur RFI,
les médias francophones publics vous proposent 40 ans de rap.
3, 2, 1, c'est parti pour le tchatchipé tchatchopi.
C'est H-I-P-H-O-P, Michel.
Ah, on s'en fout, c'est pas comme si le hip-hop allait durer 40 ans. Et stop, c'est parti.
40 ans de rap, présenté par Eric Metzger, Quentin Margot avec Juliette Fievet.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.